Bon, je vais commencer. Je pense que d'abord, je vous remercie d'être là. Donc, en fait, cette année, je vais vous mettre un peu moins de lumière. Donc, cette année, le cycle de cours va être un petit peu plus spécialisé que les années précédentes, ou sur un format un peu différent. C'est pour ça que je suis aussi pas très étonné qu'il y ait moins de monde que les années précédentes. En ce sens que je vais vraiment illustrer le fait que le collège, c'est aussi un endroit où on fait de la recherche en même temps qu'on fait de l'enseignement et où on enseigne exactement ce sur quoi on est en train de travailler à un moment donné. Et donc, c'est un petit peu l'esprit de ce cycle de cours qui est de vous présenter un certain nombre de sujets qui sont vraiment des sujets de recherche actifs actuellement dans différentes équipes dans le monde, et en particulier la mienne. Donc voilà, c'est un cours qui est très en prise avec des développements actuels. Alors ce titre, ce cours, il a un titre un petit peu long, un petit peu bizarre. En fait, il concerne deux sujets, et je ne sais pas d'ailleurs si j'aurai le temps de traiter vraiment des deux sujets dans ce cours. On verra. Peut-être que je m'arrêterai au premier, si ça suffit à remplir les 6 séances. Donc, le premier sujet, c'est le rôle crucial du couplage de Hund pour rendre compte du comportement d'un très grand nombre de matériaux, et en particulier, si on veut avoir une compréhension un petit peu globale du comportement des oxydes de métaux de transition. Je vais essayer de vous montrer dans ce cours que le couplage de Hund est véritablement quelque chose d'essentiel. Et ça, c'est quelque chose qui a émergé, je dirais, récemment à travers un certain nombre de travaux que je vais citer dans les transparents suivants, de travaux vraiment assez récents, même si une partie de cet aspect, de cette importance du couplage de Hund était connue, je dirais, un petit peu à l'état de folklore dans la littérature. Je crois que c'est juste de dire que c'est seulement relativement récemment que l'ensemble des effets qui sont responsables, dont il est responsable, sont apparus. Et en particulier, comme toujours, ça s'est fait en liaison assez directe avec des problématiques expérimentales ou des problématiques de matériaux. En particulier, je vous montrerai, je pense, et aussi à travers les séminaires, que dans les oxydes de métaux de transition de la série des métaux de transition 4D, d'une part, comme les rutanates, dont on va entendre parler dans le séminaire de la semaine prochaine, mais également, très probablement, dans l'état normal des nouveaux supraconducteurs à base de fer, eh bien, les corrélations sont très largement dues à ce couplage de Hund. Donc ça, c'est l'objet des premiers cours et séminaires. Et puis, j'ai prévu, mais on verra si on va y arriver, de vous parler également d'un autre sujet qui a une certaine relation avec le premier, qui est la description des régimes de transport dans, toujours dans les oxydes et également dans ces supra-bases de fer, d'une manière plus générale dans les matériaux corrélés, dans des régimes où, clairement, la notion de quasi-particules de Landau de grande durée de vie n'existe plus. Les libres parcours moyens sont relativement faibles. Les quasi-particules sont soit de durée de vie anormalement courte, soit simplement il n'y a pas de quasi-particules de Landau. Et néanmoins, on aimerait comprendre quelque chose sur le transport, à la fois dans ses aspects électriques et dans ses aspects thermiques ou thermoélectriques. Là aussi, c'est un sujet qui est assez, disons, qui plonge ses racines dans la littérature assez ancienne, mais dont la compréhension commence à émerger seulement actuellement. Et j'ai prévu de faire 2 ou 3 cours sur ce sujet. On verra si on y arrive. Sinon, on le garde pour une année ultérieure. Voilà. Donc, ce cycle de cours sera, j'espère, un peu plus interactif que les précédents, un peu plus spécialisé. Et ça devrait nous permettre, pour les praticiens du domaine qui sont dans la salle, d'avoir des échanges, j'espère, un petit peu plus vivants. Voilà, alors le déroulement de la première partie, donc celle sur le couplage de Hund, c'est le suivant. Aujourd'hui, il y a deux cours et pas de séminaire. Donc, je vais faire deux cours à peu près 50 minutes pour introduire le sujet. La fois prochaine, je vais donc continuer les bases de ces effets de corrélation du couplage de Hund. En particulier, je ne pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui de vous parler complètement de l'effet du couplage de Hund sur l'écrantage Kondo, et je continuerai la prochaine fois. Et puis, il y aura un séminaire qui portera sur des résultats récents de photoémission, une sorte de revue, mais aussi avec des résultats récents de photoémission sur les ruthanates. Peut-être que dans le cours précédant immédiatement ce séminaire, je donnerai quelques grandes lignes sur la physique des ruthanates en général pour introduire le séminaire. Donc ça, c'est donc le 9 mai. Le 16 mai, j'ai mis ici transport électronique dans les systèmes corrélés, mais en fait, je pense que le cours continuera sur le couplage de Hund, je n'aurai pas fini. Il y aura deux séminaires, l'un par Zilke Biermann, qui va nous parler d'une part du calcul ab initio des constantes d'interaction et des avancées récentes dans ce domaine, et d'autre part, en liaison directe avec le sujet du cours, d'effets de corrélation induits par le couplage de Hund dans ces supraconducteurs à base de fer, en particulier dans les composés 1, 2, 2. On aura également un autre séminaire par Luca de Medici, qui est dans la salle quelque part, voilà, là, qui nous parlera de sélectivité orbitale et du rôle de couplage de Hund, toujours en liaison avec ces supraconducteurs à base de fer. Et ça, c'est quelque chose qui aura lieu soit le 16 mai, soit on décalera le séminaire au 30, selon l'organisation du cours. Et j'avais originellement un orateur pour le 30 mai, qui s'est décommandé pour raison de santé. Donc, soit on décalera le séminaire de Luca au 30, soit il y aura un autre orateur. Et puis, la deuxième partie du cours, donc encore une fois, si on arrive jusque-là, portera sur ces questions de transport. En tout cas, il y aura deux séminaires, ça c'est sûr. Une séance par Nigel Yussi, qui devait venir au cours de l'an dernier sur les cuprates et n'avait pas pu, et qui est un expert de la mesure du transport dans les cuprates supraconducteurs, qui va nous parler du transport dans les cuprates, en particulier dans le régime surdopé, sur lequel il y a des résultats très intéressants qu'il a établis. Il est l'auteur d'une revue sur ce sujet, donc ça sera un séminaire, je pense, assez riche du point de vue expérimental. Et puis vers la fin du cycle, on aura deux séminaires de Sriram Shastri, qui récemment a développé des approches assez intéressantes pour comprendre la structure des corrélations à N-core et de la self-énergie dans des systèmes de corrélation forte. Donc ça sera l'objet d'un de ces séminaires. L'autre séminaire portant sur une analyse du pouvoir thermoélectrique dans des modèles simples de corrélation. Voilà, donc comme d'habitude, les transparents du cours sont mis en ligne. Le cours a lieu en français, les transparents sont en anglais pour aider les non-francophones dans la salle à suivre, et les séminaires seront soit en français, soit en anglais, selon le goût et les talents linguistiques des orateurs. Et puis, pour ceux qui veulent recevoir les annonces de chaque séminaire avec le résumé et qui ne sont pas encore sur la mailing list, vous pouvez m'envoyer un message à cette adresse, par exemple, et je vous mets dans la mailing list. Bien. Donc, encore une fois, comme c'est un cycle de cours qui est en prise avec de la recherche vivante, n'hésitez pas à poser des questions pendant le cours, à m'interrompre. On ne peut pas le faire quand il y a 80 personnes dans la salle. Là, on peut le faire un peu plus facilement. Voilà. Alors, donc, je vais démarrer le premier sujet. Le premier sujet, c'est donc l'importance du couplage de Hund. Et comme vous pouvez vous en douter, le cours va commencer par une explication un peu détaillée, générale, de ce qu'est le couplage de Hund dans les matériaux qui nous intéressent. Mais avant de faire ça, je voudrais vous donner un petit peu une vue synthétique du principal argument qui est celui de ce cours. Donc, au cours des années précédentes, particulièrement dans le cycle 2009-2010, où j'avais donné une espèce de revue générale des effets de corrélation forte dans les solides, on avait vu que c'était la proximité d'un isolant de Mott qui induisait souvent les effets de corrélation. En particulier, l'acteur le plus important dans cette affaire, c'est bien sûr U, le U de Hubbard, hein, qui est l'interaction répulsive entre électrons, qui est une échelle d'énergie dans un solide, comme on va le voir, qui est typiquement grande, de l'ordre de plusieurs électrons-volts. Dans l'atome, ça serait une échelle très grande, l'ordre de 10 à 25 eV. Dans un oxyde corrélé, c'est quelque chose qui est de l'ordre, alors peut-être de 2-3 eV dans la série des oxydes de métaux de transition 4D, et de 5 à ou de 4 à 10 eV dans la série des oxydes de métaux de transition 3D, mais c'est une échelle très grande. En revanche, l'échange intraatomique, le couplage de Hund, que je vais vous introduire après, c'est une échelle qui est beaucoup plus petite. C'est une fraction d'électron-volt. Ça peut être jusqu'à 1 eV pour les éléments de la droite des métaux de transition, comme le fer ou le nickel. Mais enfin, c'est quelque chose qui est compris entre, disons, 0,3 électron-volt et 1 électron-volt. Et néanmoins, pour les matériaux dont je vais parler et pour les oxydes en général, ce couplage joue un rôle très important. Et le message principal, c'est qu'on peut avoir des matériaux qui sont fortement corrélés, qui montrent tous les signes physiques de corrélation électronique forte, un transport qui est celui d'un mauvais métal, des moments locaux, etc., etc., et néanmoins, dans des matériaux qui sont très loin de la transition de Mott. Donc c'est ça le message important, c'est que, à la différence de beaucoup de physique qu'on a vu dans les cours précédents, où les corrélations électroniques fortes sont dues à la proximité de la transition de Mott, ici, on va avoir des effets de corrélation électronique fortes qui peuvent survenir même loin de la transition de Mott à cause de ce fameux couplage de Hund. Donc voilà le message principal. Et d'une certaine manière, ça fait apparaître la notion qu'il y a des métaux qui sont des métaux de Hund, qui sont corrélés, non pas en raison de la proximité de la transition de Mott, mais en raison de ce couplage. Alors voilà une sorte de schéma dont j'expliquerai le contenu quantitatif plus tard dans le cours, mais qui est fait pour illustrer ça. On va revoir ce schéma plusieurs fois dans la suite de ce cours, donc je ne vous explique pas tout ce qu'il y a dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Mais ce que vous voyez sur ce schéma, c'est le couplage de Hubbard, U, normalisé à une échelle typique pour l'énergie cinétique, qui est la demi-largeur de bande, en l'occurrence. Donc ça, c'est l'axe vertical. Et sur l'axe horizontal, vous avez le remplissage de la couche 3D pour un modèle dans lequel on a trois orbitales qui conviendraient donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à un oxyde dans lequel il y a une séparation T2GEG assez grande. Et on a donc un niveau T2G trois fois dégénéré qui peut contenir au maximum donc 6 électrons, comme vous voyez ici. Et les couleurs de ce dessin, pour ceux qui aiment les termes techniques, c'est le poids des quasi-particules de Landau, mais vous n'avez pas vraiment besoin à ce stade de savoir exactement quelle est la quantité qui est représentée ici. Vous avez juste besoin de savoir que plus c'est sombre, plus ce sont des bons métaux peu corrélés, plus c'est clair, plus ce sont des métaux ayant des signes de corrélation forte. Donc, par exemple, des grands renforcements de masse effective, des moments locaux, un mauvais transport. Et ce que vous voyez très clairement, ah oui, et le dernier point important, c'est que les barres noires qui sont ici, pour les différents remplissages commensurables, comme vous voyez, représentent la position de la transition de Mott. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, pour n égale 3, la transition de Mott est ici, ici elle est là, ici elle est là. Et ce diagramme, qui est le résultat d'un calcul, ce n'est pas juste un dessin par le souhait de l'orateur, c'est vraiment le résultat d'un calcul. Et ce diagramme a été fait pour une certaine valeur fixée du rapport du couplage de Hund au couplage U. Donc même si ce n'est pas dans les axes, vous avez ici J, le couplage de Hund, dont je vais parler en détail après, qui est pris en compte. Et alors ce que vous voyez très clairement, c'est que il y a certains remplissages où on a des effets de corrélation fortes, c'est-à-dire on a une couleur claire dans ce diagramme, seulement si on est très près de la transition de Mott, seulement si on est très près des barres noires. Alors vous voyez ça ici très clairement. Ici, vous voyez le couplage critique pour obtenir un isolant de Mott est très petit. C'est la couche demi-pleine, 3 électrons avec au plus 6 disponibles, donc c'est la couche demi-pleine. Vous voyez que le couplage critique est très petit et qu'il y a un petit intervalle autour de ce couplage critique dans la phase métallique où on a une couleur claire, c'est-à-dire des effets de corrélation très forts. En revanche, si vous vous placez ici, pour un électron de moins, ou de manière pas tout à fait symétrique, mais presque un électron de plus par rapport à la couche demi-pleine, vous voyez qu'au contraire, il y a une très large plage ici, hein, et surtout ici en fait, de systèmes qui peuvent avoir une couleur très claire, donc être dans un régime de très forte corrélation électronique, et néanmoins, on peut être très loin de la valeur critique du couplage de Hund. Et vous voyez que sur ce diagramme, on a placé des matériaux. J'expliquerai plus tard dans le cours comment ces matériaux ont été placés sur ce diagramme en détail. Mais vous voyez que les ruthénates, par exemple, qui feront donc l'objet du séminaire de la semaine prochaine, sont précisément, d'après ce point de vue, des matériaux dans lesquels il y a des effets de corrélation fortes, mais on est très loin de la transition de Mott. Voilà. Donc, je vous ai présenté ça, non pas pour vous expliquer les détails de ce que vous voyez là, ça c'est quelque chose qui va apparaître de manière beaucoup plus explicite dans la suite du cours, mais pour que vous ayez en tête le message principal, le message clé, c'est-à-dire des effets de corrélation forte loin de la transition métal-Isorlandmott. Voilà le message principal. Bonjour. Alors, pour continuer dans la partie introductive de ce cours, il y a en fait, en ce qui concerne tout au moins mon propre intérêt dans ce sujet, deux personnes qui ont joué un rôle essentiel dans le développement de ces idées au cours, disons, des deux, trois dernières années. Yernaim Ravier, qui est ici, qui est postdoc dans notre équipe, et Luca De Medici, qui est au laboratoire de physique des solides d'Orsay. Et on est en train de préparer un article de revue auquel on travaille nuit et jour sur ce sujet. Chacun, vous allez voir dans la suite du cours que, en fait, les articles de chacune de ces personnes ont apporté des éclairages différents, en fait, sur ce problème, ce qui nous a finalement conduit à collaborer ensemble pour produire des articles communs qui réunissent un peu ces différents points de vue. Bon, alors, il y a un certain nombre de gens qui ont été impliqués dans ces collaborations, à un titre ou à un autre, et dans des discussions que je voulais aussi remercier ici, dans différentes configurations et géométries et différents endroits dans le monde. En fait, tout ce sujet de l'importance des corrélations dues au couplage de Hund dans ces matériaux, c'est quelque chose qui commence, comme je vous le disais, il y a une sorte de folklore qui existe depuis longtemps, mais je considère qu'il y a vraiment deux articles pionniers qui sont particulièrement intéressants, qui ont relancé un peu ce sujet. L'un par l'équipe de Hawley et Cotillard à Rutgers, qui propose très tôt, après leur découverte expérimentale, que ces supraconducteurs à base de fer sont des matériaux fortement corrélés en raison du couplage de Hund, de l'échange intra-atomique. Donc c'est cet article qui est paru en 2009 dans New Journal of Physics, mais qui a été soumis en fait nettement avant. Je tiens à souligner ça, ce qui montre que les référis, les rapporteurs ne voient pas toujours l'intérêt d'un article et mettent longtemps à le publier, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Et puis un autre article de l'équipe d'Andy Millis à Columbia, Andy Millis qui est en sabbatique dans notre équipe actuellement, et qui ont analysé et remarqué qu'il y avait un comportement particulièrement étrange, non liquide de Fermi, dans cette zone en fait bleu clair, ici, du diagramme que je montrais tout à l'heure, et ça sera l'objet d'un des cours ultérieurs, d'analyser plus en détail la nature de cet état métallique étrange. Alors, il y a ces deux articles pionniers, mais il y en a d'autres dans la région qui sont peut-être tout aussi pionniers. Donc, j'ai déjà cité le travail, sans avoir encore cité l'article, de Luca, qui a mis l'accent, en fait, sur un autre aspect, qui, dans le cadre d'un atome isolé, trouve ses racines dans des travaux antérieurs que je vous montrerai tout à l'heure, mais dans le contexte d'un solide, est quelque chose qui n'avait pas été vraiment souligné, qui est le rôle du couplage de Hund sur la valeur critique du couplage de la transition entre un métal et un isolant de Mott. Donc ça, je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt l'aspect, si vous voulez, comment le couplage de Hund contrôle la transition de Mott. Et puis, l'autre article, je dirais, qui fait un peu le pendant, qui est donc l'article de Yernay et Mravlier, qui s'intéresse au ruthénat et qui remarque que le couplage de Hund joue un rôle essentiel pour diminuer l'échelle de cohérence des quasi-particules. Donc vous voyez, on va retrouver cette notion qu'on peut avoir des quasi-particules très incohérentes avec des durées de vie courtes, et c'est ça un petit peu qui fait le lien entre la première partie du cours et la deuxième. Alors ce sont des aspects complémentaires, parce que cet aspect-là, il insiste plutôt sur l'aspect influence du couplage de Hund sur le gap de Mott. Cet article-là, il insiste plutôt sur l'aspect influence du couplage de Hund sur l'échelle de cohérence des quasi-particules, donc plutôt sur la phase métallique. Et il est clair que ces deux aspects doivent être mis ensemble si on veut comprendre le problème globalement, et c'est ce qu'on a essayé de faire, donc quand je vous ai dit qu'on avait uni nos forces, c'est ce qu'on a essayé de faire dans cet article commun qui est paru il n'y a pas très longtemps et qui est ensuite l'origine de cet article de revue qu'on est en train d'écrire sur ce sujet. Alors, il y a d'autres articles, toujours dans le périmètre immédiat de Parisien. Il y a cet article de Zilke Biermann et ses collaborateurs, également Andy, Michele Cassula, qui peut-être est là, peut-être n'est pas là, précisément montre la pertinence de ce régime non liquide de Fermi pour les pnictures de fer, et puis également des articles qui sont liés au magnétisme de certains matériaux demi-remplis, dont je parlerai peut-être un peu par la suite. Bon, alors ça, c'était pour vous donner un petit peu un panorama de ce qui vous attend, et enfin, si vous restez aux séances suivantes, et également des idées générales. Maintenant, je vais essayer de décliner un petit peu ce que je vais faire vraiment dans ce cours, et puis on verra combien de séances ça nous prend. Donc, tout de suite, je vais commencer par vous parler de ce qu'est ce fameux couplage de Hund, comment il apparaît. Ça va me donner l'occasion de clarifier un certain nombre de choses concernant les Hamiltoniens multi-orbitaux, des choses qui sont pour certaines connues et pour d'autres particulièrement mal faites dans la littérature. Donc je vais essayer de clarifier un certain nombre de choses. J'en viendrai ensuite à l'effet du couplage de Hund sur le gap de Mott, donc c'est plutôt le premier aspect dont je parlais tout à l'heure, d'abord pour un atome isolé et ensuite pour un atome dans son environnement solide. Ensuite, je vous parlerai de l'effet du couplage de Hund sur l'échelle Kondo d'écrantage d'impuretés magnétiques, donc c'est plutôt le deuxième aspect, le couplage de Hund sur la cohérence des quasi-particules dans une situation simple où on a un seul atome de métal de transition dans une matrice métallique. Je pense que les deux cours, il y a deux séances aujourd'hui, deux cours, s'arrêteront à peu près par là. Et puis, donc, dans la suite de ces cours, je mettrai ces deux aspects ensemble. C'est ce que nous appelons l'aspect Janus ou Janus du dieu latin Janus, qui a deux visages du couplage de Hund. Donc, j'essaierai de mettre ces deux aspects ensemble et de vous montrer pourquoi le couplage de Hund a effectivement deux rôles contradictoires dans ces matériaux et de vous expliquer ce diagramme coloré que vous avez vu tout à l'heure. Et puis, je continuerai plus en faisant une liaison directe avec les matériaux. D'abord, sur les oxydes, j'essaierai de vous montrer que ces idées permettent de donner une assez large classification des oxydes de métaux de transition 3D et 4D, qui c'est particulièrement important pour les oxydes 4D. Et ensuite, vers la fin, on va donc parler du couplage de Hund en relation avec les supraconducteurs à base de fer. Et donc, c'est un petit peu ça le déroulement de ce que je veux vous raconter dans cette suite de cours. Bon, donc maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet, un peu plus précisément, et je vais commencer par introduire cet acteur majeur, donc, qui est le couplage de Hund. Alors, c'est quelque chose qui, évidemment, remonte aux premières années de la mécanique quantique. L'article de Hund, qui est un monsieur qui a vécu exceptionnellement vieux, puisqu'il est né en 1896 et il est mort en 1997, presque centenaire, un centenaire en fait. Et Donc l'article de Hund date de 1925. Donc vous voyez, 1925, c'est le moment où la mécanique quantique a cristallisé dans sa forme moderne, on peut dire, mais où un très grand nombre d'applications à la physique atomique, par exemple, commencent à être développées. Et c'est précisément la question que se pose Hund. En fait, c'est un des premiers articles qu'il a écrit, il était encore très jeune. Il énonce un certain nombre de règles qui permettent de comprendre comment, quel est l'état fondamental d'une couche atomique avec beaucoup d'électrons, avec plusieurs électrons. Donc, on a tous appris ces règles de Hund en faisant de la chimie, peut-être dès le lycée. Et ces règles de Hund sont les suivantes. Si vous avez n électrons dans une couche atomique qui a une dégénérescence m, donc dans toute la suite de ce cours, m, c'est le nombre de cases atomiques disponibles dans la couche en l'absence du spin. Donc la dégénérescence totale, c'est 2m. D'accord ? M, ce serait 2L plus 1, où L est le nombre quantique angulaire orbital, le moment cinétique orbital, dans ma couche atomique. Donc si j'ai n électrons dans une couche avec m état, eh bien, ce que me dit Hund, c'est que je dois obéir séquentiellement aux trois règles suivantes. D'abord, je dois rendre le spin total le plus grand possible. Alors, ce n'est pas très compliqué de voir que si vous commencez à empiler les électrons avec tous les spins parallèles pour rendre le spin total le plus grand possible, eh bien, tant que vous avez des places libres, vous allez avoir le plus grand spin possible, n sur 2. Et puis, quand vous commencez à passer du côté où vous avez rempli plus que la moitié des cases disponibles, hein, vous êtes obligé de compléter en créant des doubles occupations. Hein, donc, vous commencez à diminuer le spin. Et donc, pour n plus grand que m, on va avoir m moins n sur 2. Donc, on a s égale 0 aux deux extrémités, hein, pour n égale 0, n égale m. Et puis on a S égale M sur 2, juste pour une couche demi-pleine avec le plus grand spin possible. Donc ça, c'est la première règle qui est quelquefois appelée la règle de multiplicité maximale. Alors une fois qu'on a fait ça, il reste encore à déterminer l'état orbital des électrons. Donc la deuxième règle dit que, étant donné ce S, on va maintenant chercher à maximiser L, le nombre quantique orbital. Bon. Je vous donnerai des exemples par la suite. Clairement, si par exemple vous prenez une couche demi-pleine avec un électron dans chaque case disponible exactement, eh bien vous avez rempli tous les états possibles de Lz, donc vous allez être dans un état de L égale 0. Hein, donc quelquefois, ce L maximal, ça sera L égale 0, c'est ce qui se passe pour une couche demi-pleine, et on dit dans ce cas-là que le moment cinétique orbital a été complètement... Comment on dit quenched en français ? Bloqué, voilà. Blocage du moment cinétique orbital. Alors, la dernière règle, elle nous dit que, étant donné S et L, eh bien, il faut encore trouver J. Alors, vous savez que J peut aller de L moins S à L plus S. Hein. Donc, comment trouver J ? Ben, c'est très simple. Si on est dans une couche demi-pleine, on va prendre la valeur la plus petite, qui est donc L moins S. Et si on est dans une couche plus que demi-pleine, on va prendre la valeur la plus grande, L plus S. Alors clairement, cette dernière règle, elle a quelque chose à voir avec la manière dont le moment cinétique orbital et le moment de spin se couplent. Donc vous ne serez pas très étonné de savoir que cette dernière règle, dite troisième règle de Hund, elle a à voir avec le couplage spin-orbite, qui est un sujet très à la mode actuellement en physique des solides. Peut-être j'y consacrerai d'ailleurs mon cours de l'an prochain, ce n'est pas encore décidé tout à fait. Mais dans le cours de cette année, on ne va pas entendre beaucoup parler de couplage spin-orbite, on va entendre parler de couplage de Hund. Donc, les deux premières règles, elles ont une origine différente. Clairement, on imagine bien qu'une des origines possibles de ces deux premières règles, c'est le fait de payer le moins possible d'interactions de Coulomb répulsives. Alors, effectivement... c'est ce qui est en général dit, c'est-à-dire que, puisque, imaginez par exemple que vous ayez deux électrons, hein, vous avez donc la possibilité de les mettre dans deux états de spin possibles, soit l'état de spin singulier S égale 0, soit dans l'état de spin triplet S égale 1. Si vous les mettez dans l'état de spin triplet S égale 1, vous devez faire une fonction orbitale antisymétrique. Dans une fonction orbitale antisymétrique, les deux électrons vont se voir moins souvent. En revanche, si vous preniez S égale 0, vous auriez une fonction de spin symétrique, et donc les deux électrons peuvent se rencontrer plus souvent. Donc vous voyez bien qu'en termes d'énergie de Coulomb, vous allez pouvoir éviter une partie de l'interaction de Coulomb répulsif, donc gagner en énergie d'interaction si vous le placez dans l'état de spin total 1, qui est la première règle de Hund. Alors il semblerait qu'en fait cet argument ne soit pas complètement correct, et je lis dans les livres de chimie quantique qu'en fait il y a un autre élément qui est très important, qui est la manière dont l'interaction entre le potentiel nucléaire et les électrons est écrantée. Hein? Il semblerait que l'écrantage soit beaucoup plus efficace dans le cas d'états simplement occupés, donc qui sont ceux dictés par la règle de Hund, que dans le cas d'états doublement occupés, et que donc les orbitales simplement occupées sont tirées en énergie vers le bas et qu'on gagne de cette manière en énergie d'interaction, non pas en énergie d'interaction électron-électron, mais en énergie d'interaction entre le noyau et les électrons. Alors, l'origine microscopique de cette question, ce n'est pas l'objet de mon cours, puisque moi je vais m'intéresser surtout à ce qui se passe dans l'état solide, donc je vous réfère à ce livre Quantum Chemistry de Levine pour ceux qui veulent clarifier cette question. Alors vous voyez les règles de Hund, donc c'est très simple, en gros ça vous dit qu'on tend à des états de spin maximal et que ceci va avoir une conséquence également, et ça c'est très important, sur la physique des degrés de liberté orbitaux. Alors, dans la littérature anglo-saxonne, cette règle s'appelle quelquefois the bus seat rule, donc la règle des occupants d'un autobus, règle bien connue qui est qu'au fur et à mesure que vous montez dans l'autobus, vous avez tendance à vous asseoir dans des places seules, hein, et pas à vous asseoir à côté de quelqu'un. Donc vous voyez là, cette personne, elle essaye de se mettre le plus loin possible de celle qui est ici, et puis c'est seulement quand tous les sièges sont déjà une personne qu'on commence à créer des doubles occupations. Donc voilà le bus seat rule. Ok, donc ça c'est les bases, disons, physiques du couplage de Hund. Donc voilà par exemple, j'ai extrait ce petit tableau du livre d'Henri Alloul, il le reconnaît peut-être. Donc voilà par exemple l'occupation des couches atomiques d'un métal de transition 3D, par exemple, donc où on peut aller de 1 à 10 électrons, donc dans ce cas, M égale 5, 10 à cause du spin, et donc vous voyez que pour la case demi-remplie, hein, on va mettre tous les spins parallèles, première règle de Hund, donc on va avoir un spin total 5 demi, mais du coup, le moment orbital va être bloqué à L égale 0, donc c'est le cas, par exemple, de manganèse 2+, comme dans MNO, hein, où vous avez une couche demi-remplie, argon 3D5, un grand spin 5,5, donc ça va être un système très bon pour le magnétisme, et dans ce cas-là, le magnétisme est entièrement dû au moment cinétique de spin, puisque le moment orbital est bloqué. Voilà, bon, des choses très simples. Maintenant, c'est à peu près l'essentiel de la physique atomique dont on va avoir besoin, au moins qualitativement. Maintenant, que se passe-t-il quand on commence à mettre tout ça dans un solide? Alors, je vais commencer par considérer un cas simple qui va nous occuper pas mal pendant ce cours, qui est le cas où on place le métal de transition dans un environnement cristallin cubique. Donc, par exemple, c'est ce qui se passe quand on a un oxyde de métal de transition. Prenez par exemple une structure, alors là, je remonte certaines... Je pensais avoir montré ça quelque part, bon, peu importe. Donc prenez par exemple un environnement octaédral d'oxygène, hein, comme on en trouve dans toutes les perovskites, par exemple. Donc je vous réfère au cours des années précédentes, où j'avais expliqué ça en assez grand détail. On a un métal de transition ici, entouré de ces 6 oxygènes. Imaginons qu'on ait une géométrie complètement cubique. Donc dans ce cas-là, pour ceux qui veulent des détails, vous pouvez aller voir les cours de la... du cours 5 du cycle 2009-2010, où j'avais expliqué que, dans le cas d'un environnement cubique, la symétrie de champ cristallin, donc l'effet du potentiel des oxygènes, lève la dégénérescence, donc qui est nominalement 5 pour une orbitale D, en un triplet T2G qui contient ces orbitales-ci, et un doublet EG qui contient ces orbitales-là. Donc on a une levée de dégénérescence qui peut être grande, qui peut être plusieurs électronvolts, hein, et donc je vais me focaliser sur le cas où la sous-couche active, c'est la couche T2G. juste pour fixer les idées, parce que c'est plus facile d'écrire les Hamiltoniens dans ce cas-là. Donc, ça va être le cas des oxydes de transition du début de la série, hein, dans lesquels il y a peu d'électrons qui vont aller de manière privilégiée dans le triplet de basse énergie. Bon, alors dans ce cas-là, c'est très facile de voir que si j'écris les différentes interactions possibles sur mon site atomique, il n'y a que trois constantes de couplage. En général, c'est plus compliqué, comme je l'avais expliqué dans un cours des années précédentes, je vais y revenir un tout petit peu aujourd'hui, mais dans le cas T2G, c'est très simple, il y a juste trois constantes de couplage. Alors, il y a évidemment l'interaction de Coulomb sur un même site et dans une même orbitale. Donc vous voyez qu'ici, on a pris la même orbitale. Ça peut être une des trois orbitales T2G, dxy, dyz, dxz. On prend l'élément de matrice. Alors l'élément de matrice de quoi? L'élément de matrice du potentiel de Coulomb écranté dans le solide, bien sûr. Si vous prenez ici E carré sur R moins R prime, ce qui est pour l'atome isolé, vous allez trouver un nombre qui est de l'ordre de, disons, 15 à 25 eV. Clairement, dans le solide, ce nombre est considérablement réduit par l'écrantage pour, vers une valeur qui va être typiquement entre, disons, 2 eV dans les oxydes de métaux de transition 4D et puis peut-être 10 eV dans les oxydes de métaux de transition 3D de la droite de la série, donc les cuprates, par exemple. Donc, un effet considérable de l'écrantage de Coulomb sur U. Donc U, c'est le U de Hubbard, dont on a souvent entendu parler dans ces cycles de cours. Même orbital, même site, l'interaction de Coulomb est écrantée. Alors il y a une autre constante de couplage. Alors évidemment, tous les U pour les différentes orbitales sont égales par symétrie dans cet environnement cubique parfait, qui a une seule constante. Alors ensuite, il y a un U prime qui est la même interaction, et maintenant quand on considère deux orbitales différentes, donc par exemple XY et XZ. Donc ça, ça donne une autre interaction, U prime, qui est un peu plus petite. Et vous verrez dans quelques instants qu'il y a d'ailleurs des relations entre U' et U. Donc on a ici U', et de nouveau, par symétrie, il y a un seul U' pour toutes les paires d'orbitales dans une géométrie T2G parfaite. XY et XZ à la même interaction que XY et YZ, pour des raisons de symétrie évidentes. Et puis finalement, il y a un terme qui est le terme d'échange. Alors vous voyez ici, c'est un terme dans lequel, eh bien, vous avez ici la coordonnée R qui se réfère à l'orbital M et ici la coordonnée R' qui se réfère à l'orbital M. Hein. Donc c'est un terme d'échange et ce terme-là est évidemment beaucoup plus petit. C'est directement lié aux règles de Wundt, ce terme d'échange. Donc voilà le couplage de Wundt, J. Alors en fait, là, le J que j'ai défini, il est défini de manière appropriée pour une orbitale T de G. Vous allez voir la relation avec l'atome isolé un peu plus tard. Et nominalement, il y a deux J. Il y a J et puis il y a J'. Ici, vous voyez que j'ai mis aucun complexe conjugué. J'aurais pu écrire phi étoile de M, phi M' de R, ou j'aurais pu écrire phi étoile de M, phi étoile M' de R. Donc, normalement, il y a deux constantes d'échange J. Il y a J et J'. Mais là, de nouveau, dans un environnement T2G, les fonctions d'onde peuvent être choisies réelles, et donc il y a une seule constante d'échange. Et puis c'est tout ce qu'il y a, parce que vous pouvez vérifier que par symétrie, tous les éléments de matrice de ce tenseur, en réalité on a évidemment un tenseur, puisque c'est un opérateur à deux corps, on a quatre fonctions d'onde, hein, et donc a priori on a un tenseur, UM1, M2, M3, M4. Mais par exemple, tous ces éléments de matrice-là, qui font intervenir une orbitale et puis trois identiques, sont zéro, par symétrie. Donc, dans ce cas très simple, il y a juste trois constantes de couplage à cause des symétries de la réalité des fonctions d'onde. Alors, ceci veut dire que dans ce cas d'un multiplet T de G, je peux écrire explicitement l'Hamiltonien à N corps, l'Hamiltonien d'interaction, et cet Hamiltonien d'interaction prend la forme suivante. Donc, cette fois, c'est juste la traduction hein, de ces termes dans le langage de seconde quantification. Donc voilà la forme de ces interactions. On reconnaît ici le U de Hubbard entre deux orbitales identiques de spin opposé, le U', deux orbitales différentes de spin opposé, U' moins J, qui est deux orbitales différentes de spin parallèle. Donc vous voyez déjà ici, de manière très claire, la manifestation de la règle de Wundt, qui favorise le couplage entre spins parallèles. Et puis, vous voyez que tous ces termes ici sont des termes densité-densité, qui s'expriment en termes du nombre d'électrons dans l'orbital m sigma. En revanche, il y a deux autres termes, hein, qui interviennent, bien sûr, quand vous écrivez l'échange en seconde quantification, qui sont un terme de saut de paire. Donc, vous voyez ici, j'ai pris une paire singulaire dans l'état m et je l'ai transférée dans l'état m'. Donc, ça, c'est le terme de saut de paire. Et ici, il y a un autre terme, qui est le terme d'échange de spin, de renversement de spin, puisque vous voyez qu'ici, on avait un état de spin up dans l'état M, et on l'a renversé, on a fait un processus dans lequel M down devient M up, et de manière opposée, M prime up devient M prime down. Donc c'est un terme d'échange de spin. Et ces deux termes ici, dont je vais reparler un peu dans la suite, ne peuvent pas être écrits comme un couplage densité-densité, et parce que j égale j', ils ont un même coefficient ici. Le signe ici vient juste du fait que j'ai choisi d'écrire d croix up, d croix down, d up. Peut-être il aurait été plus logique de l'écrire d croix up, d down, d up, d croix down, hein, auquel cas j'aurais pu mettre un plus j ici. Bon, donc voilà cet Hamiltonien. Ce n'est pas un Hamiltonien qui est correct pour un atome isolé avec mes 5 orbitales D. Dans le cas où j'ai mes 5 orbitales D en symétrie sphérique, je vais en parler un tout petit peu plus tard, j'aurai l'Hamiltonien complet, UM1, M2, M3, M4. Ce n'est un Hamiltonien qui n'est exact ici que parce que je me focalise sur une couche T2G. Alors cet Hamiltonien a un nom, comme beaucoup d'Hamiltoniens, il s'appelle l'Hamiltonien de Kanamori, et il a été introduit par Kanamori dans l'article qui est ici, 1963. Alors, sur toutes ces questions d'éléments de matrice, des interactions dans un solide, il y a une référence qui est très utile, que j'ai pas mal fréquentée récemment, qui est le livre de Sugano Tanabe Kamimura, dont j'ai mis la référence ici, qui est assez introuvable, sauf dans les bibliothèques, mais qui contient beaucoup de choses, et qui aide également à dissiper l'assez grande confusion qui existe dans la littérature sur ces Hamiltoniens, comme je vais vous le montrer un petit peu maintenant. Alors, continuons un petit peu avec cet Hamiltonien de Kanamori. Donc là, c'est un petit peu une digression un peu plus technique, disons, sur ces Hamiltoniens multi-orbitales. Vous voyez que dans l'Hamiltonien physique pour une couche T2G, comme j'ai insisté sur ce point, il y a trois constantes de couplage, U', et J. Mais dans cet Hamiltonien, il y a 5 termes. D'accord ? Donc je peux aussi bien décider de regarder cet Hamiltonien juste comme un modèle, disons, dans un cas un petit peu plus général, où je mets une constante de couplage différente devant ces 5 termes. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai gardé la notation U', U', moins J pour les termes densité-densité, et j'ai mis ici, devant le terme de spin flip, un terme J échange, et devant le terme de saut de paire, un terme J paire. Donc maintenant on a 5 constantes de couplage, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut chercher à réécrire cet Hamiltonien en termes des générateurs du groupe de symétrie du problème. Alors, comme vous allez le voir, toutes les symétries ne sont pas respectées, mais je vais introduire ces générateurs qui sont là, donc la charge totale, qui est somme sur m sigma de nm sigma, le spin total, et puis le moment cinétique, disons l'isospin orbital, si on veut. Donc vous allez voir que dans le cas d'un atome, et pour un multiple T de G, il a effectivement un lien avec le moment cinétique orbital. Donc j'introduis ces générateurs, ça ce sont des générateurs de U1, ça des générateurs de SU2 spin, et ça des générateurs de SO3. J'ai trois orbitales. Et avec un peu d'algèbre, j'ai bénéficié de notes de Michel Ferrero très utiles pour faire cette algèbre, on peut réécrire cet Hamiltonien de cette manière-là. Et donc vous voyez qu'il y a deux types de termes, il y a des termes qui s'expriment en termes des invariants de ces trois groupes, donc le carré de la charge, le carré du spin, le carré du moment cinétique, donc les trois quasimires des différents groupes. Et puis il y a un terme ici, qui j'ai tout ramené au terme de saut de paire, qui est le canard boiteux de cet Hamiltonien, qui ne veut pas se mettre sous une forme simple. Alors si vous regardez cet Hamiltonien, vous voyez que, eh bien, donc ça c'est ce qu'on obtient, hein, quand on part de l'Hamiltonien de Kanamori, pas de celui-ci, mais de l'Hamiltonien de celui-là. Voilà. Alors vous voyez qu'il y a une condition sous laquelle ce terme disparaît et l'hamiltonien devient complètement invariant et U1 croît SU2 croît SO3, qui est le cas où U' égale U moins 2J. Donc vous voyez que si U' égale U moins 2J, j'ai complètement l'invariance de cet hamiltonien par U1 croît SU2 croît SO3. Et effectivement, cette condition U' égale U moins 2J, c'est la condition que vous trouvez si vous calculez ces constantes de couplage en symétrie sphérique. Donc si vous faites l'hypothèse que le potentiel écranté dans le solide, le VC qu'on avait tout à l'heure, est simplement un VC de R moins R' qui a la symétrie sphérique complète, eh bien, les intégrales de Slater et ce genre de choses vous montrent que U' égale U moins 2J. Et effectivement, ça signale le fait que dans un triplet T2G, le moment cinétique orbital qui était L égale 2 dans la couche D, hein, n'est que partiellement bloqué et il reste un moment cinétique orbital L égale 1 dans le problème. Et donc c'est pour ça qu'on a essentiellement une symétrie de rotation correspondant à L égale 1 dans l'hamiltonien. Mais rien ne vous dicte nécessairement le fait que U' doit être égal à U moins 2J dans un multiplet T2G en symétrie cubique. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il est important d'insister, parce qu'il y a quelquefois des confusions sur ce sujet dans la littérature. Dans un oxyde en symétrie cubique, si je regarde juste le multiplet T2G, rien ne me dicte que U' doit être égal à U moins 2J. En pratique, il semblerait que les interactions de Coulomb-Comté aient des symétries relativement sphériques et que cette différence soit faible, mais a priori, elle est là. Bon, alors, on peut faire le même exercice pour cet hamiltonien général, donc en partant maintenant de cet hamiltonien complètement général. Et ce que vous trouvez dans ce cas-là, c'est qu'il y a deux formes qui sont invariantes par rotation. Donc, il y a celle dont je viens de parler, hein, qui est U' égale U moins 2J et Jx égale Jp égale J. Donc ça, c'est la forme, je dirais, physique pour un multiple T2G si on fait en plus l'approximation d'une interaction asymétrie sphérique. Et à ce moment-là, l'hamiltonien devient ceci. Donc il s'exprime de manière très belle en fonction des générateurs. Et je me servirai de cette forme dans la suite du cours. Et puis il y a une autre forme qui est également invariante par rotation, qui est le cas où je choisirais comme un choix, disons, qui n'est pas le choix physique pour un multiple T2G, U' égale U moins J, cette fois pas 2J, mais J, et puis pas de saut de paire. Et donc dans ce cas-là, cet hamiltonien de Kanamori généralisé, disons, se met sous la forme qui est ici, et vous voyez que cette forme-là, elle ne fait intervenir que la charge et le carré du spin total. Et cet hamiltonien a en fait été introduit il y a pas mal d'années par ces deux chercheurs dans le contexte des impuretés Kondo, dans les solides, et l'effet du couplage de Wundt sur les impuretés Kondo, pour lequel cet hamiltonien est souvent discuté. En fait, cette forme, elle est très générale. Sous ces conditions-là, elle s'applique à un nombre m d'orbitales quelconque. Bon, alors, donc je reviens à l'hamiltonien physique, qui est ici, hein, pour un multiple T2G. Je vais vous montrer son spectre. Donc ça, c'est le spectre de la partie purement atomique de l'hamiltonien de Kanamori, pour classer en fonction donc, des trois nombres quantiques que je viens de discuter, la charge totale sur l'atome, le spin total et le moment angulaire. Alors vous voyez par exemple, et ce qui a été entouré ici par un carré, c'est la dégénérescence du multiplet fondamental dans chaque secteur. Alors vous voyez bien que les règles de Wundt sont obéies par cet hamiltonien. Effectivement, vous voyez ici que si j'ai trois électrons dans ma couche T2G, eh bien, vous avez le spin maximal, 3,5, qui correspond à mettre les trois électrons de spin parallèle. Si vous avez deux électrons, vous avez un spin 1, etc. Et vous voyez que l'effet du couplage de Wundt est de lever la dégénérescence par rapport au cas J égale 0, bien entendu, puisque quand J égale 0, l'hamiltonien ne fait intervenir que la charge totale et dans ce cas-là, il aurait une symétrie complète SU6. En revanche, dès qu'on met un J fini, la symétrie est brisée vers U1 croît SU2 croît SO3. Donc, il y a des levées de dégénérescence. Et donc, vous voyez par exemple ici que dans le secteur où il y a trois électrons, donc la couche demi-pleine, on aurait, en l'absence du couplage de Wundt, un multiplet dont la dégénérescence totale serait ici 20, et elle est logée, elle est levée à 4 hein, en présence du couplage de Hund. De même ici pour deux électrons, on aurait ici 15 états qui formeraient la dégénérescence de l'état fondamental, et en présence du couplage de Hund, cette dégénérescence est levée à 9. Donc vous voyez un effet très important du couplage de Hund qui va jouer un rôle dans la détermination de l'échelle de cohérence des quasi-particules, qui est que l'entité atomique qui doit être écrantée quand on met les atomes ensemble pour faire un solide a une dégénérescence beaucoup plus grande quand J égale 0 que quand J est non nul. Donc le système devient, entre guillemets, on pourrait dire de manière qualitative, plus quantique, moins semi-classique, quand on met le couplage de Hund, la dégénérescence du fondamental diminue. Bon, alors on peut faire le même genre d'algèbre pour le cas à deux orbitales. Je ne vais peut-être pas vous infliger ça maintenant. Je le ferai peut-être en fin de séance. Il y a des différences entre le cas à deux orbitales. Je vais quand même vous montrer la différence essentielle. Donc, dans le cas à deux orbitales, donc si on regardait par exemple le cas d'un doublet physique EG, hein, de nouveau, on aurait trois constantes de couplage, U'J seulement. Ces trois constantes de couplage, donc l'Hamiltonienne Kanamori serait encore exacte dans ce cas-là. Et cette fois, la relation U' égale U moins 2J, elle est dictée par la symétrie cubique. Donc c'est complètement différent du cas T2G. Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas, en général, apprécié correctement dans la littérature. U' égale U moins 2J est dictée par la symétrie cubique. Et si vous réécrivez l'Hamiltonien, comme je viens de le faire, en termes des générateurs, cette fois, on a toujours la charge totale, le spin total, mais maintenant, on a un isospin orbital qui est donné par ceci, avec cette fois les générateurs du spin 1,5, les matrices de Pauli ici. Eh bien, si vous réécrivez l'Hamiltonien T2EG dans ce langage, vous trouvez cette forme, et vous voyez que cette forme, elle n'a aucune symétrie continue résiduelle. Elle n'a aucune symétrie continue résiduelle, et ceci, sauf bien sûr la charge totale, et ceci montre que dans un multiple T2G, le moment cinétique angulaire est complètement bloqué. Il n'y a plus de degré de liberté continu lié au moment cinétique angulaire. Bon, je passe sur le reste. Donc, maintenant, si je veux calculer ces constantes de couplage, comment je dois faire? Alors, pour ça, je peux les relier aux paramètres de Rackas-Slater qui me donnent les éléments de matrice de l'interaction de Coulomb dans un atome. Alors, je ne vais pas faire ça en détail parce que j'ai déjà parlé de ça dans le cours d'il y a deux ans. Hein. Donc je vous réfère assez transparent du cours d'il y a deux ans. Je crois que c'était le cours 8, il y a deux ans. J'avais décrit assez en détail ces intégrales de Rackas-Slater. Donc je vous donne juste les expressions. Si je me place maintenant en symétrie sphérique, hein, eh bien j'ai trois intégrales de Slater, F0, F2, F4, ou trois paramètres de Raka, c'est la même chose, et je peux relier ces trois constantes de couplage à ces trois intégrales par ce genre de relation. Et je voudrais juste insister sur le fait que ces trois constantes de couplage ici ne sont pas, enfin il y a une question de notation, ce sont trois constantes de couplage qui sont notées différemment quand on considère les cinq orbitales D d'un atome, que quand on considère ce système T2G. Donc ici, U, U' et J sont reliés à F0, F2 et F4 par ces relations, mais très souvent, quand les gens parlent de l'atome, ils définissent U par F0 et le couplage de Hund par cette formule. Hein? Donc, si vous voulez exprimer U, U' et J dans le contexte T2G ou EG en fonction de ces choses-là, ben, faut faire un peu d'algèbre et vous trouvez par exemple ce genre de relation. Ça fait une certaine différence puisque le couplage de Hund dans l'atome complet, si c'est JH, le couplage de Hund en T2G, ça sera à peu près, disons, 2/3 de JH. Donc ça fait une certaine différence. Et les gens qui font les calculs, par exemple, à partir de premiers principes de ces intégrales, de ces quantités, connaissent bien ce genre de choses. Et connaissent aussi les sources d'erreurs possibles quand on confond ces constantes de couplage. Bon. Donc ces intégrales de Slater peuvent être définies dans l'atome en symétrie sphérique, peuvent être calculés par des méthodes Hartree-Fock, par exemple. Mais évidemment, c'est un problème difficile et qui est encore l'objet de travaux très actuels, d'estimer à partir des premiers principes ou d'estimer à partir de données expérimentales ces intégrales de Slater dans le contexte d'un solide. Donc je pense que Zilke Biermann, dans le séminaire qu'elle fera le 16, parlera un peu de ce problème. Le message important, c'est que l'écrantage, alors je passe sur tout ça, l'écrantage de l'interaction de Coulomb modifie profondément la valeur de F0. F0, c'est le monopôle. D'accord ? Donc clairement, l'écrantage va avoir une influence directe sur F0 et on passe de valeurs typiques, comme je le disais tout à l'heure, de 10 à 25 EV, de 15 à 25 EV, à des valeurs qui sont facilement 20 ou 30% de ça à cause de l'écrantage. En revanche, comme vous le voyez, la constante d'échange, comme vous le voyez dans les expressions qui sont ici, eh bien, la constante d'échange, elle ne fait pas intervenir la partie monopôle, elle fait uniquement intervenir F2 et F4, qui sont des moments d'ordre supérieur, et donc elle est beaucoup moins sensible à l'écrantage. Alors ça, c'est une remarque qui a été faite il y a de nombreuses années, en particulier par le groupe de George Zawadzki, qui a beaucoup insisté sur le fait que le couplage de Hund est beaucoup plus proche de sa valeur dans l'atome isolé que ne l'est le U, qui est beaucoup réduit par l'écrantage. Alors je vous recommande en particulier cet article, Van der Marel et Zawadzki. En fait, c'est la thèse de Dirk Van der Marel, qui depuis est devenu un des grands experts de la spectroscopie optique des solides, dans lesquels il y a cette remarque, d'une part, et d'autre part, des estimations basées sur des arguments expérimentaux et des arguments empiriques, des analyses de différentes spectroscopies, ces différentes intégrales de Slater dans le contexte d'un solide pour les métaux de transition et les terres rares. Alors, pour vous donner un petit peu une idée des ordres de grandeur, si vous prenez l'estimation du couplage de Hund, donc maintenant je parle du JH de tout à l'heure, le JT de G sera à peu près 0,7 fois ça, hein. Si vous prenez l'estimation du couplage de Hund pour l'atome isolé, vous pouvez faire un calcul artifoque qui donne ce résultat, où Z est le nombre atomique, et vous voyez que c'est donc quelque chose qui va varier à peu près de 0,6 à 1,2 EV, pardon, cette quantité-là varie de 0,8 à peut-être 1,5 ou 1,6 EV quand vous parcourez la série des métaux de transition 3D du scandium jusqu'au zinc. Alors en revanche, dans cet article de Van der Marel et Zawadzki, ils estiment, à partir de données expérimentales, ils estiment la réduction de ce couplage de Hund par l'écrantage, et vous voyez que cette réduction est d'environ 20 à 30%, comme vous le montrent ces deux formules. C'est un facteur de réduction qui dépend assez peu de l'endroit où vous êtes dans la série, et donc, à la fin des fins, vous pouvez penser à J Hund comme étant de l'ordre de 0,6 à 1,2 EV quand vous parcourez la série des métaux de transition, 0,6 des métaux de transition 3D, hein, 0,6 au début de la série pour le vanadium, le titane, et puis plus grand que 1 EV pour les métaux de transition qui sont d'ailleurs des ferromagnétiques itinérants comme le fer, le nickel, et évidemment le ferromagnétisme des métaux de transition est très fortement lié à cette grande valeur du couplage de Hund dans ces systèmes. Voilà, alors ça c'est pour vous donner une idée des ordres de grandeur, donc pour résumer, hein, les ordres de grandeur, c'est que le U écranté va être dans la série des métaux de transition 3D, quelque chose qui va être compris entre, disons, 3 EV et 9 EV pour les éléments lourds du côté du cuivre. Dans la série des métaux de transition 4D, le U va être nettement plus petit à cause de l'extension des orbitales 4D, et puis le couplage de Hund est quelque chose qui est une constante de couplage a priori nettement plus faible, hein, de l'ordre de plus, disons, ce type d'ordre de grandeur. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est que le couplage de Hund, le F0, le U, croît quand on va de la gauche à la droite de la série. Hein. Donc si vous regardez le rapport J sur U, c'est quelque chose qui est assez constant. Et si vous mettez ce genre d'estimation qualitatives ensemble, vous allez trouver que le rapport J sur U est quelque chose qui est situé entre 0,11 et 0,15, et donc quelque chose qui est assez constant. Donc c'est assez légitime dans les calculs théoriques, disons les calculs modèles, de représenter les choses à J sur U donné, fixé, pour se rapprocher un peu de ce qui se passe dans les vrais matériaux. C'est ce que vous allez voir dans pas mal de calculs que je présenterai plus tard, et dans la littérature, on trouve beaucoup de calculs qui sont faits à J sur U fixé. C'est justifié par ce genre de choses. Bon, alors, je vais maintenant aborder les conséquences de tout ça pour l'énergétique du gap de Mott, mais je pense qu'on pourrait prendre une petite pause d'abord. Donc, je vous propose de vous arrêter, disons, 10 minutes, et puis je vais vous parler des conséquences du couplage de Hund pour le U critique et l'énergétique du gap de Mott.